Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de B-Side qui s'annonce encore plein de surprises. Et on commence d'ailleurs cette demi-heure avec une artiste française qui a fait du chemin et que vous allez sans doute redécouvrir aujourd'hui. Elsa Longini, avant de se faire un nom, était un prénom. Elsa tout court, c'est comme ça que le public la connaît dans les années 80. À la fois actrice et chanteuse, elle est alors une gentille ado bien sage qui chante des bluettes et qu'on met en compétition avec l'autre baby doll de l'époque, Vanessa Paradis. La pauvre Elsa aura bien du mal à se débarrasser de cette étiquette et quand elle tente de le faire, eh bien le succès n'est pas au rendez-vous. Elle entame une longue traversée du désert finalement inspirante puisqu'elle lui permet de réellement construire sa personnalité artistique. Elle surprend d'abord en 1996 avec un album qu'elle écrit quasiment toute seule aux sonorités acoustiques et folk. Ensuite, après 8 ans de presque silence, elle sort de Lave et de Sève en 2004. Cette fois, la chanteuse s'entoure d'auteurs-compositeurs qui parviennent à lui proposer des morceaux qui lui correspondent, dont un duo qui a fait ses preuves et dont l'univers lui plaît, Benjamin Biolay et Keren Ann. 4 ans plus tard, nouvel album, surprenant, au titre évocateur, Elsa Longini. Et oui, c'est celui de la maturité, celui de l'identité trouvée ou retrouvée. Pour le réaliser, elle a fait confiance à l'un des meilleurs auteurs-compositeurs du moment, Emmanuel Da Silva, qui a l'art de la mélodie ciselée et du texte délicat. La fragile voix d'Elsa Longini ne demandait que ça, et c'est tout en sensibilité que la chanteuse enchaîne les 13 titres de l'opus. On écoute la dernière des Canailles, un titre écrit pour elle par Da Silva.
Va te faire mettre des roses plein les bras, elles ne dureront pas. Va te faire mettre les mots d'un autre sur la bouche, ils ne tiendront pas. Pas plus que ses promesses, pas plus que ses baisers. Ici, rien ne tient, tant qu'au fond de toi je reste le premier pour des choses. On aime comme l'on déteste, et comme un mauvais garçon, je reste. Ton souvenir acerbe et ton plus bel amant, je reste le cauchemar dont tu rêves. Revivre chaque instant, je reste le reste de nous.
Elsa Longini avec la dernière des Canailles, cet extrait de l'album Elsa Longini sorti en 2008. On change complètement d'ambiance et d'époque avec UB40. Et oui, direction les années 80 avec ce groupe de reggae formé en 1978 à Birmingham en Angleterre. Et oui, on est loin de Kingston. C'est l'Angleterre populaire, celle du foot, des pubs et de la crise sociale. D'ailleurs, UB40, ça veut dire Unemployment Benefit Form 40, le papier qu'il fallait remplir pour prétendre recevoir des indemnités de chômage. La bande de Birmingham doit en partie son succès à Chrissy Hynde qui les repère par hasard dans un bar et qui décide de les mettre en première partie de l'un des concerts de son groupe, les Pretenders. Le style assez inédit de UB40 dans le paysage musical anglais lui permet une ascension fulgurante et son premier album, Signing Off, devient rapidement un grand succès qui ne dépasse pas les frontières britanniques. Il faut dire que les paroles sont très politiques, très spécifiques à la société anglaise de l'époque sous l'ère thatchérienne, même si elles font aussi référence aux problèmes raciaux un peu partout dans le monde. Cette dimension engagée nous échappe à nous Français qui ne connaissons bien souvent UB40 que pour son tube Soleil Kingston Town sorti en 1990. Eh bien, on se rattrape tout de suite avec Burden of Shame, fardeau de la honte, extrait de Signing Off. C'est une chanson qui revient sur le colonialisme britannique en le condamnant fermement, un hymne pacifiste que Madame Thatcher a dû apprécier. Burden of Shame, signé UB40, c'est extrait de l'album Signing Off, sorti en 1980. Difficile à croire que c'est le même groupe que celui qui sortira plus tard, Kingston Town et Red Red Wine. On avance d'une décennie avec le groupe d'un seul tube, ça arrive, c'est même assez fréquent. Il s'agit de Spin Doctors, que son single Two Princes a rendu célèbre en 1993. Formé à la fin des années 80 à New York, le groupe ne prétend pas révolutionner la musique qu'il a choisi, à savoir le rock. Fan de blues rock façon Rolling Stones, il s'autorise des incursions dans le pop rock sans complexe et fait simplement la musique qu'il aime sans arrière-pensée. C'est cette simplicité qui permet au groupe de s'attirer la sympathie des critiques, qui louent ses bonnes intentions et la propreté de ses compositions, tout en reconnaissant qu'il ne propose rien d'original. Avant de vous proposer un morceau, le nom du groupe mérite un petit commentaire. Spin Doctors, c'est le surnom que l'on donne aux spécialistes de la communication et du marketing politique, à l'origine de la technique du storytelling qui peut être apparentée à une forme de propagande puisqu'elle consiste à tordre un petit peu les faits pour présenter un candidat, un parti ou une société sous un bon angle. Le terme est apparu dans les années 80, les années Reagan aux États-Unis. On écoute donc Spin Doctors avec House, extrait de l'album You've Got to Believe in Something, sorti en 1996. Spin Doctors et son rock inoffensif avec House, extrait de You've Got to Believe in Something. Je vous invite vraiment à explorer la discographie du groupe qui s'enrichit régulièrement de nouveaux albums. Place à une grande dame de la musique disco, Gloria Gaynor est en effet célèbre pour son hymne I Will Survive, symbole de cette musique dansante qui fit les beaux jours des clubs new-yorkais à la fin des années 70. Gloria commence en tant que choriste, puis en tant que chanteuse dans un petit groupe de jazz, mais il ne faut bien sûr pas longtemps avant qu'un producteur ne remarque son incroyable voix puissante. L'album Never Can Say Goodbye, sorti en 1975, la propulse en haut des charts et elle capitalise immédiatement sur ce succès en sortant la même année un deuxième opus intitulé Experience Gloria Gaynor. L'album marche bien aussi, mais il est suivi d'un petit passage à vide. Cependant, en 1978, Gloria Gaynor entre dans la légende, la vague disco bat son plein et Gloria sait chanter cette musique comme personne. Quand une voix comme la sienne rencontre un titre comme I Will Survive, ça donne évidemment un succès planétaire, même si à l'origine, le titre est le B-side de la reprise Substitute. On ne compte plus les reprises de I Will Survive qui parlent de liberté, d'indépendance et de nouveau départ. Malheureusement pour Gloria, la chanson aura l'effet inverse sur sa carrière. Après ce titre, tout ce qu'elle a sorti a semblé bien fade et on la résume désormais souvent à ce titre et uniquement à celui-là. C'est oublier un peu vite sa voix extraordinaire et sa contribution à la musique disco, un genre finalement exigeant, souvent regardé de haut. Je vous propose d'écouter un extrait de l'album Love Tracks, sorti en 78 et sur lequel on retrouve I Will Survive. Voici Stoplight.
Stop.
Gloria Gaynor avec Stoplight, extrait de l'album Love Tracks, une chanteuse vraiment à redécouvrir. Et on referme ce B-side aujourd'hui avec un DJ américain, Chris Brann, qui, à la fin des années 90, a apporté sa contribution à la vague house qui déferlait sous le pseudonyme Wamdu Project. Il est surtout reconnu pour un tube international, King of My Castle, qui reste comme l'un des morceaux électro les plus emblématiques de la mouvance house de l'époque. Je vous propose de voir plus loin que ce succès avec un autre single intitulé Where Do We Go, représentatif du style Chris Brann, mais qui lui n'a pas eu les honneurs des charts. Merci de votre fidélité, à très vite bien sûr pour un nouveau numéro de B-Side que vous pouvez réécouter, je vous le rappelle, sur notre site internet www.radiograndciel.fr.